franceinter.fr.
Et donc à la une de la science aujourd'hui, c'est tombé ce matin l'annonce en Afrique du Sud de la découverte d'une nouvelle espèce du genre humain.
Et cela nous a conduit, mesdames et messieurs, à cette conclusion remarquable que nous venons de découvrir une nouvelle espèce inconnue du genre humain. Regardez ces os, regardez ces fossiles, c'est maintenant et c'est gratuit.
Voilà, et le sens de la communication. Vous l'aurez remarqué évidemment, la voix du chercheur Liberger qui présentait donc à la presse ce matin depuis Johannesburg Homo naledi, une nouvelle espèce du genre humain. Liberger qui a étudié la morphologie de 15 dépouilles d'hominidés, découvertes donc par des spéléologues en 2013 dans une grotte très difficile d'accès située à 500 km de Johannesburg. Selon lui, les différences avec les espèces connues sont suffisantes donc pour définir une nouvelle espèce du genre Homo. Naledi signifie étoile en langage sesotho. Et nous filons justement en Afrique du Sud, en direct du site baptisé le berceau de l'humanité, où nous retrouvons Laurent Bruxelles. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géomorphologue à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Vous avez beaucoup travaillé sur Little Foot et vous êtes donc à quelques kilomètres de la grotte justement où a été découverte cette nouvelle espèce humaine. Dites-nous exactement où vous êtes.
Alors, je suis exactement sur la colline de Sterkfontein, donc juste à côté de Little Foot. Et ça domine, c'est à peine à 500 mètres à vol d'oiseau du site de Rosenita. Et donc je domine à peine et je vois le site de là où je suis.
Voilà, donc vous êtes près de ce site qui fait déjà la une de l'actualité absolument partout dans le monde entier. Et puis on accueille également par téléphone pour commenter donc cette découverte depuis Bordeaux, Isabelle Crèvecœur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue au CNRS. Isabelle Crèvecœur, est-ce qu'on peut vraiment affirmer aujourd'hui que Homo naledi est une nouvelle espèce ?
Alors c'est une question intéressante et tant qu'on n'aura pas quelque part la publication scientifique associée à cette découverte, on est en tout cas en tant que scientifique un petit peu dans le flou. Disons que pour annoncer ce type de découverte et annoncer une nouvelle espèce, il faut quand même passer par un protocole bien établi qui doit être validé par les pairs dans une publication à revue de comité de lecture. Mmh. Et ça passe en fait par la définition d'un holotype, donc un spécimen particulier pour décrire cette espèce. Alors actuellement, on a la communication de presse qui a été faite, donc j'imagine que cette nouvelle espèce a dû être validée de manière scientifique et on attend avec impatience d'avoir le détail de toutes les caractéristiques qui permettent de définir cette nouvelle espèce.
Alors Laurent Bruxelles, dites-nous tout ce que vous savez, parce qu'évidemment vous travaillez beaucoup sur place en Afrique du Sud, vous connaissez Liberger j'imagine, ça faisait longtemps que vous aviez entendu parler de la découverte de cette nouvelle espèce humaine, puisque ça remonte à 2013 en l'occurrence.
Alors ça faisait plus de 2 ans, on avait entendu parler de la découverte de ce site, effectivement, de restes tout à fait exceptionnels. Ce n'est que l'an dernier qu'on a compris que c'était un nouvel homo. Voilà, il y a eu des fuites, des communications petit à petit, donc on a appris peu à peu ce dont il en ressortait. Et l'an dernier, j'ai été invité à visiter la grotte, donc je puis aller visiter le site. Si ce n'est que je n'ai pas pu accéder à la salle dans laquelle j'étais en cours de fouille, parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est assez compliqué. Et là, effectivement, on peut confirmer que l'accès au site lui-même est extrêmement compliqué, même pour un spéléologue. On se pose des questions tellement les passages sont étroits.
Ouais. Pourquoi la datation de ces ossements, qui sont annoncés entre 1 et plus de 2 millions d'années, sont difficiles justement à définir, Laurent Bruxelles?
Mais parce que là, en l'occurrence, ce sont des ossements pour lesquels il n'y a pas de contexte. C'est-à-dire que si on veut dater un ossement, quel qu'il soit, pour l'instant, on ne peut pas le dater par lui-même. Il n'y a pas de méthode qui permette de dater de manière assez précise, en tout cas pour ces périodes-là. Donc, il reste 2 solutions. Soit il y a des sédiments qui le recouvrent et on peut dater ces sédiments, comme par exemple de la calcite, des stalactites ou des stalagmites. Mm-hmm. Ou alors, il faut que ces restes soient associés à de la faune, des rongeurs, vous voyez, des bovidés, des choses comme ça. Donc, pour certains, on connaît justement la période d'existence. Là, ce n'est pas le cas, puisqu'il n'y a que de l'homo. Il n'y a aucun autre animal, aucune autre faune associée. Donc, pour l'instant, on dirait que la date, elle flotte.
Ouais. Voilà. Isabelle Crèvecœur, évidemment, la datation, c'est extrêmement important. Hein.
Oui, surtout quand on parle des premiers représentants du genre Homo, évidemment, dans des périodes, aux alentours de 2 millions d'années, on est dans un registre fossile qui est extrêmement... pauvres, notamment en Afrique du Sud, pour les premiers représentants du genre homo. Et donc, si on est dans cette période de temps et de transition entre les derniers représentants australopithèques et les premiers représentants du genre homo, la découverte qui a été faite avec et qui est communiquée avec autant de restes humains, c'est évidemment extrêmement important. Si on est dans une autre période de temps, par contre, ou quelque chose de plus récent, c'est tout aussi intriguant, puisqu'on aurait à ce moment-là une population de premiers représentants du genre homo qui auraient des caractéristiques donc à la fois primitives et dérivées dans des périodes de temps à laquelle on ne les attend pas. Donc on est vraiment très en attente de cette date.
Oui. Et Laurent Brussel qui aurait peut-être été capable déjà à ces époques très lointaines, donc 2 millions d'années, de réaliser des rites funéraires, hein, parce que ça pose problème ça quand même.
Ah oui, non, effectivement, c'est le fait qu'il n'y a que des homos qui a été interprété par l'équipe qui a fouillé ce site comme étant un rituel. C'est déjà assez fort comme mot, ça signifie beaucoup de choses. Là, le fait est que la question est pourquoi il n'y a que des homos, pourquoi finalement il n'y a pas d'autres faunes. Lorsqu'on travaille dans les grottes sud-africaines, quelle que soit la profondeur à laquelle on se rend, on s'aperçoit qu'il y a de la faune, il y a des porc-épics, il y a des hyènes, il y a beaucoup d'animaux qui vont très très loin sous terre. Donc là, la question, c'est pourquoi il n'y a que l'homme. Il y a quand même, je pense, tout un travail à refaire au-delà de l'adaptation, c'est l'étude de la qualité par elle-même. Puisque effectivement, pour l'instant, il est dit qu'il y a une seule entrée, c'est celle que l'on pratique. Comme je vous le disais, elle est tellement étroite que j'ai du mal à penser qu'on ait pu penser faire passer des corps ou transporter, voire même des ossements jusque-là. Mmh. Par contre, il serait important de voir s'il n'y a pas d'autres entrées. Et lorsqu'on aura une vision un peu globale, à la fois de la colline, de la grotte et de son organisation, on pourra peut-être plus réfléchir sur que font ces restes à ce niveau-là.
Laurent Brussel, vous êtes donc dans le berceau de l'humanité. C'est un lieu tout à fait exceptionnel, évidemment, pour des paléo-anthropologues. C'est là, justement, qu'a été découvert Littlefoot, sur lequel vous travaillez beaucoup, et qui a été daté à 3,7 millions d'années. Hein.
C'est ça, exactement. On est avec lui en ce moment, avec Ron Clark, d'ailleurs. On était en train de l'observer, et nous allons retourner tout à l'heure dans la grotte, continuer à observer les couches. Parce que là aussi, au-delà de l'inscription du fossile lui-même, eh bien, il faut toujours revenir sur le site et voir son contexte, puisque ça valide la datation, ça valide l'ambiance, voilà, les conditions sédimentaires dans lesquelles il s'est mis en place. Et donc, ça, voilà, c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini non plus. Donc, au moins, on l'a dit, voilà, il y a tout un travail à faire pendant de longues années afin de valider tout ça.
Ouais. Et donc, vous êtes avec Littlefoot, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, là, en ce moment?
Ah oui, il est à 20 mètres de moi, entièrement déplié comme on voit Lucie, par exemple, sur les photos, puisqu'on rencontre qu'il est en train de travailler sur la publication finale.
Incroyable.
Donc aujourd'hui, il est entièrement déballé juste pour nous.
Bah écoutez, c'est incroyable en tout cas de vous savoir aussi près de ce fossile exceptionnel aussi qu'est Littlefoot, et dont on reparlera d'ailleurs dans les jours qui viennent avec vous, en compagnie d'Yves Coppens. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications autour de Homo naledi, qui est en ce moment, on le voit sur les écrans, vraiment à la une de tous les journaux dans le monde entier, c'est incroyable, avec cette annonce qui devra quand même être confirmée avec une publication qui risque d'arriver. Isabelle Crèvecœur, merci également pour vos explications. À très bientôt, merci d'être venu à la Une de la Science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la maladie d'Alzheimer pourrait potentiellement être transmissible selon une étude publiée dans la revue Nature par des chercheurs de Londres. Une caractéristique de la maladie a été observée chez des patients décédés de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ces patients avaient été traités par une hormone de croissance d'origine humaine. Les chercheurs pensent que ce traitement aujourd'hui interdit pourrait avoir déclenché la maladie d'Alzheimer chez ces patients. Yves Agide, un mot, un commentaire sur cette information?
Oui, on sait depuis longtemps que des critères de la maladie d'Alzheimer sont trouvés dans les maladies de Creutzfeldt-Jakob. Vous vous rappelez la vache folle? Là, c'est les enfants qui avaient été traités par l'hormone de croissance infectée.
Oui.
Alors, c'est intéressant de penser qu'on ait trouvé un lien de cause à effet. Ça,
c'est une vraiment transmission, une nouveauté. Hein, donc, voilà, pour cette publication. Elle s'appelle l'idole de Chigir et elle pourrait être la plus vieille statue de bois. Cette œuvre de près de 3 mètres de haut d'origine sibérienne serait aussi ancienne que les premières œuvres néolithiques du Proche-Orient. Après de nombreuses études, une équipe d'archéologues allemands lui donnerait l'âge de 11 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne sculpture de bois connu au monde. Et vous pouvez voir sa photo sur la page Facebook de La Tête au Carré, sur notre compte Twitter. Ne pas trop se voir, eh bien c'est le secret de la fidélité chez les manchots. Une étude publiée mercredi dans la revue Biology Letters et réalisée sur 10 couples d'une espèce de manchot monogame montre que les partenaires sont continuellement séparés par des centaines, voire des milliers de kilomètres. Au cours d'une année, les couples de manchots des îles Malouines ne seraient réunis que 3 mois par an, soit 23% du temps. Mais cette séparation ne les empêche pas de se reproduire chaque année avec le même partenaire. Félicitations.